Je fis mes préparatifs et lui les siens. Nous travaillâmes jusqu'à ce que le ciel commence à pâlir. Le navire était bourré de toutes les réserves qu'il pouvait contenir, du fromage, de l'orge grillée, des fruits séchés ou frais. Télémaque ajouta des filets de pêche et des rames, du cordage supplémentaire et des couteaux, le tout soigneusement rangé et attaché à sa place. À l'aide de roulettes, nous poussâmes le bateau jusqu'à la mer et sa coque s'inséra sans effort dans les brisants. Pénélope resta debout sur la grève pour nous faire des signes d'adieu. Télémaque était allée seule lui annoncer son départ. Quoi qu'elle puisse en penser, elle n'en avait rien laissé transparaître. Il hissa la voile, l'orage était passé, les vents étaient frais, vigoureux. Ils nous poussèrent et nous glissâmes dans la baie. Je jetai un regard à Ea derrière nous. C'était la deuxième fois de ma vie que je la voyais s'éloigner ainsi. L'étendue d'eau entre nous grandit et ses falaises rétrécirent. Je sentais le sel des embruns sur mes lèvres. Nous étions entourés de vagues aux volutes argentées. Aucun coup de tonnerre ne retentit. J'étais libre. Non, me corrigeai-je, pas encore. Où allons-nous ? Télémaque attendait ma réponse, la main sur le gouvernail. La dernière fois que j'avais prononcé son nom à voix haute, c'était avec mon père. Vers le détroit et vers Scylla. Je le vis absorber mes paroles tandis qu'il manœuvrait la proue d'une main experte. Tu n'as pas peur ? Tu m'avais prévenu que ce n'était pas sûr. Je ne crois pas qu'avoir peur m'aidera. Les flots défilaient. Nous passâmes devant l'île où nous avions fait halte avec Dédale pour rejoindre la crête. La plage était toujours là, et j'aperçus un bosquet d'amandiers. Le peuplier abattu par l'orage devait avoir disparu depuis longtemps désormais, absorbé par la terre. Une trace pâle apparut à l'horizon. Heure après heure, elle grandit, s'évasant comme de la fumée. Je savais ce que c'était. « Baisse la voile. Nous avons des choses à préparer d'abord. » Nous pêchâmes 12 poissons par-dessus le bastingage, les plus gros que nous pûmes trouver. Ils se débattirent, éclaboussant le pont de gouttes froides et salées. J'introduisis mes herbes dans leur gueule béante en prononçant le mot fatidique. Ce craquement familier, la chair qui se déchire, et soudain ils ne furent plus des poissons, mais 12 béliers, gras et hébétés. Ils se bousculèrent en roulant des yeux, serrés les uns contre les autres dans cet espace restreint. C'était une bénédiction. Ils n'auraient pas pu tenir debout autrement. Ils n'étaient pas habitués à avoir des pattes. Télémaque dut les enjamber pour atteindre les rames. « Elles vont sans doute être un peu difficiles à manier. Ils ne vont pas rester là longtemps. » Ma remarque lui fit froncer les sourcils. « Ont-ils le goût de mouton ? Je ne sais pas. » De ma sacoche de simple, je tirai le petit pot d'argile que j'avais rempli la veille au soir, bouché à la cire et muni d'une poignée incurvée. À l'aide d'un lien en cuir, je l'attachai autour du cou du plus gros bélier. Nous déployâmes la voile. J'avais averti Télémaque à propos de la brume et de l'écume, et il avait ajusté une paire de rames dans des dames de nage de fortune. Quoique peu pratique, car le bateau était censé être un voilier, elle nous aiderait à avancer si le vent tombait complètement. Nous devons rester en mouvement quoi qu'il arrive, insistai-je. Il acquiesça, comme si cela allait être une partie de plaisir. Je savais que c'était faux. J'avais beau avoir en main le javelot surmonté du dard vénéneux, j'avais vu à quel point Scylla était rapide. Un jour, j'avais dit à Ulysse qu'il était impossible de lui résister. Et pourtant, j'étais revenu. Je touchai légèrement l'épaule de Télémaque en murmurant un charme. Je sentis l'illusion se rassembler au-dessus de lui. Il avait disparu, le pont était nu, l'air vide. Cela ne résisterait pas à un examen approfondi, mais c'était suffisant pour le cacher si Scylla jetait juste un coup d'œil au passage. Il m'observait sans poser de questions. Il me faisait confiance. Je me retournai brusquement pour me retrouver face à la proue. La brume nous enveloppa. Mes cheveux s'imprégnèrent d'humidité et le bruit de succion du tourbillon nous parvint au-dessus des vagues. Caribe, c'est ainsi que les hommes avaient appelé ce vortex. Il avait emporté son contant de marins, tous ceux qui avaient essayé d'éviter l'appétit de Scylla. Les béliers se pressèrent contre moi en tanguant. À la différence de vrais moutons, ils n'émettaient aucun son. Ils ne savaient pas se servir de leur gorge. J'eus pitié d'eux, sous leur forme tremblante et monstrueuse. Le détroit se profila et nous plongeâmes dans sa gueule. J'avisai brièvement Télémaque. Il se tenait prêt à manier les rames sur le qui-vive. Ma nuque se hérissa. Qu'avais-je fait? Je n'aurais jamais dû l'entraîner ici. L'odeur m'assaillit, familière même au bout de si longtemps, un mélange de pourriture et de haine. Ensuite, elle émergea de la brume grise en ondulant. Ses têtes déformées et familières avançaient sournoisement le long de la falaise avec un son râpeux. Leurs regards injectés de sang étaient rivés sur les béliers qui empestaient le gras et la peur.
« Viens !»
criai-je. Elle frappa. Six béliers furent happés par six mâchoires grandes ouvertes. Vive comme l'éclair, elle se retira avec eux dans la brume. J'entendis des craquements d'os, les bruits humides de ses gorges qui avalaient. Du sang dégoulina le long de la paroi rocheuse. Je parvins tout juste à jeter un second coup d'œil à Télémaque. Le vent était presque tombé et il ramait désormais avec concentration les bras couverts de sueur. Scylla revint, tortillant ses six têtes avec malveillance. Des touffes de laine dépassaient de ses dents.
« Maintenant, le reste !» repris-je.
Elle s'empara si vite des six autres que j'eus à peine le temps de les compter entre le moment où je parlais et celui où ils disparurent. Le bélier à la fiole était parmi eux. Je guettai le son de l'argile se brisant entre ses dents, sans rien distinguer derrière les bruits d'eau broyée. La nuit précédente, sous la lune froide et les étoiles, j'avais extrait le venin du javelot. Il avait coulé goutte à goutte, liquide et transparent dans mon bol en bronze poli. J'y avais ajouté du dictame, récolté si longtemps auparavant en Crète, des racines de cyprès, des fragments de mes falaises et de la terre de mon jardin, et pour terminer, un peu de mon propre sang rouge. La préparation avait moussé avant de devenir jaune. J'avais versé le tout dans la fiole, que j'avais scellée avec de la cire. À présent, la drogue devait être en train de descendre dans la gorge de Scylla et de se répandre dans ses entrailles. J'aurais cru que 12 moutons apaiseraient le gros de sa faim, mais quand elle revint, ses yeux avaient leur expression habituelle, avide et vorace. Comme si ce n'était pas son estomac qu'elle nourrissait, mais une rage sans limite.
« Scylla !»
criai-je en brandissant le javelot.
« C'est moi, Circé, fille d'Hélios, sorcière d'Éa !»
Elle hurla, émettant toujours le même son cacophonique qui me vrillait les tympans, sans donner pour autant aucun signe qu'elle me reconnaissait.
« Il y a longtemps, j'ai changé la nymphe que tu étais sous cette forme. Aujourd'hui, je suis venue armée du pouvoir du Trigon pour mettre un terme à ce que j'ai commencé. »
Et, dans l'air saturé de brume, je prononçai le mot qui permettrait à ma volonté de s'accomplir. Elle siffla. Ses yeux n'exprimaient pas la moindre curiosité. Ses têtes continuaient à onduler, scrutant le pont au cas où il resterait des moutons qu'elle aurait ratés. Derrière moi, j'entendais Télémaque peiner aux rames. Notre voile pendait mollement, lui seul nous permettait d'avancer. Je vis le moment exact où les yeux de Scylla passèrent outre mon illusion et le repérèrent. Elle poussa un gémissement sourd et avide.
« Non !»
Je brandis de nouveau le javelot.
« Ce mortel est sous ma protection. Tu endureras d'affreuses souffrances si tu essaies de le prendre. Comme tu le vois, je détiens la queue du Trigon !»
Elle poussa un autre cri. Son haleine me submergea, puante et d'une chaleur torride. Dans son excitation, ses têtes se tortillaient de plus belle. Elles claquaient dans les airs, de longs filaments de salive dégoulinant de leurs mâchoires. Sa peur du javelot n'allait pas la retenir longtemps. Elle avait fini par apprécier le goût de la chair mortelle. Elle en avait terriblement envie. Une terreur sombre et absolue me submergea. J'aurais juré que je voyais le sort agir. M'étais-je trompé? Mes épaules étaient trempées par la panique. J'allais devoir combattre six têtes affamées en même temps. Je n'étais pas une guerrière entraînée. L'une d'entre elles allait m'échapper, et alors Télémaque ? Pas question que je m'autorise à aller au bout de cette pensée. Mon esprit se mit à cracher des idées toutes plus inutiles les unes que les autres, des sorts qui ne pourraient pas l'atteindre, des poisons dont je ne disposais pas, des dieux incapables de me venir en aide. Je pouvais dire à Télémaque de sauter à la mer et de nager, mais il n'avait nulle part où aller. Le seul chemin hors de portée de Scylla l'entraînerait dans le tourbillon dévorant de Charybde. Je me plaçai entre Scylla et lui, javelot brandi, toutes mes terminaisons nerveuses en alerte. « Il faut que je la blesse avant qu'elle m'atteigne, » pensais-je. « Il faut au moins que je me débrouille pour que le poison du trigon pénètre dans son sang. » Je me préparai au coup imminent. Il ne vint pas. L'une de ses gueules bougeait bizarrement, ses mâchoires s'ouvrant et se refermant de manière erratique. Un son étranglé s'échappa du plus profond de sa gorge. Elle eut un haut-le-cœur et de la mousse jaune apparut entre ses dents.
« Qu'est-ce que c'est ?» entendis-je Télémaque demander. « Que se passe-t-il ? »
Je n'eus pas le temps de lui répondre. Le corps de Scylla s'effondra, surgissant de la brume. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Il était énorme et gélatineux. Il dégringola le long de la falaise au-dessus de nous. Ses têtes hurlaient en tressautant comme si elles essayaient de l'aider à remonter. Cependant, il ne fit que tomber plus bas, aussi inexorablement que s'il était lesté de pierre. J'apercevais désormais le début de ses pattes, ses douze tentacules monstrueux qui le prolongeaient dans la brume. Hermès m'avait dit qu'elle les gardait toujours cachés, enroulés dans la grotte au milieu des os et des morceaux de chair avariés, agrippés à la roche pour que le reste de son corps puisse sortir se ravitailler à toute allure avant de revenir. Les têtes de Scylla claquaient et gémissaient, reculant pour mordre leur propre cou. Sa peau grise était maculée d'un mélange de mousse jaune et de son propre sang rouge. Un bruit enfla, pareil à un gros rocher qu'on traîne par terre, et soudain une masse floue et grise tomba devant nous, se fracassant sur les vagues à côté de notre bateau. Le pont s'inclina follement, me déséquilibrant presque. Quand j'eus repris l'équilibre, je me retrouvai en train de lorgner avec horreur une de ses énormes pattes. Elle pendouillait depuis son corps, aussi épaisse que le plus vieux chêne d'Ea, et son extrémité disparaissait dans les vagues. Elle avait lâché prise. « Il faut qu'on parte, » annonçai-je, « tout de suite. Il va y en avoir d'autres. » Avant que j'aie pu terminer ma phrase, le bruit du glissement de l'énorme corps avait repris. Télémaque me cria un avertissement. La patte s'écrasa si près de la poupe que le bastingage fut à moitié englouti par les flots. Je tombai à genoux, tandis que Télémaque était arraché à son siège. Il réussit à s'accrocher aux rames et à les remettre en place avec effort. Autour du navire, les eaux bouillonnaient tumultueusement et nous étions ballottés au gré des vagues. Dans les airs au-dessus de nous, Scylla hurlait en se débattant furieusement. Le poids de ses pattes l'avait entraîné plus bas sur la falaise. Bien que nous soyons désormais à la portée de ses têtes, elle ne prêtait plus attention à nous. Elle mordait la chair molle de ses propres pattes, la saccageant. J'hésitai un instant, puis coincai la hampe du javelot avec nos réserves pour qu'il ne glisse pas dans la tourmente. J'empoignai une des rames de Télémaque.
« Allons-y !»
Nous nous mîmes à ramer, courbés par l'effort. Le bruit reprit et une autre patte tomba, inondant le pont et déviant la proue en direction de Charybde. J'entrevis son chaos tourbillonnant qui avalait des navires entiers. Télémaque agrippa le gouvernail pour essayer de l'éviter.
« Une corde !»
cria-t-il. J'en attrapai une à tâtons dans nos réserves. Il la noua autour du gouvernail et tira, luttant pour diriger le bateau hors des détroits. Le corps de Scylla se balançait à deux hauteurs de mât au-dessus de nous. Ses pattes pleuvaient de plus belle du ciel et chaque impact tirait un peu plus son tronc suspendu dans les airs vers le bas. 10, comptai-je. 11.
Il faut qu'on avance !
Télémaque avait redressé la proue. Il attacha le gouvernail et nous nous remîmes à la hâte aux rames. Sous la falaise, le navire oscillait comme une coque de noix dans les eaux déchaînées. Autour de nous, les vagues étaient tachées de jaune. La patte restante s'étirait depuis le haut de la paroi rocheuse. Grotesquement tendue, elle était tout ce qui retenait désormais Scylla. Elle lâcha prise. Son corps massif heurta l'eau. La vague m'arracha la rame des mains et le sel froid me gifla le crâne. Je vis brièvement nos réserves se faire engloutir par la mer, puis le javelot du Trigon disparaître en dernier dans l'écume blanche. Même si je ressentis sa perte comme un coup en pleine poitrine, je n'eus pas le temps de m'apesantir là-dessus. J'agrippai le bras de Télémaque, prêt à voir le pont s'effondrer sous nos pieds à tout moment. Néanmoins, les planches robustes tinrent bon, ainsi que la corde et le gouvernail. Les remous de la dernière grosse vague nous propulsèrent en avant, hors du détroit. Le bruit de Caribe s'était atténué, et la mer autour de nous était redevenue étale. Je me remis sur pied pour regarder en arrière. Au pied de la falaise, là où s'était trouvé Scylla, on ne distinguait désormais plus qu'un énorme banc de sable. Six coups de serpent étaient encore vaguement visibles par-dessus, mais ils ne bougeaient pas. Ils ne bougeraient plus jamais. Elle s'était transformée en pierre. Le trajet jusqu'à la terre fut long. Mes bras et mon dos étaient aussi douloureux que si on m'avait fouetté, et c'était certainement pire pour Télémaque. Mais notre voile, miraculeusement intacte, nous permit d'avancer. Pareil à une assiette qui tombe, le soleil sembla plonger dans la mer, et la nuit se leva au-dessus de l'eau. Une fois que j'eus repéré le rivage à travers les ténèbres piquetées d'étoiles, nous traînâmes le bateau jusqu'à la plage. Nous avions perdu presque toutes nos réserves d'eau potable, si bien que Télémaque était quasiment muet, le regard vitreux. Je partis à la recherche d'une rivière, puis ramenai une coupe que j'avais transformée à partir d'un rocher. Après l'avoir vidée, il resta allongé immobile si longtemps que je commençais à prendre peur, mais il finit par s'éclaircir faiblement la gorge en demandant ce qu'il y avait à manger. Heureusement, j'avais pu cueillir quelques baies et pêcher un poisson qui rôtissait sur le feu. « Je suis désolée de t'avoir fait courir un tel danger, m'excusai-je. Si tu n'avais pas été là, nous aurions été mis en pièces. » Il hocha la tête avec lassitude en mâchant sa nourriture. Ses traits étaient encore tirés et livides. « Je t'avoue que je suis heureux que nous n'ayons pas à recommencer. » Sur ce, il s'allongea sur le sable et ses yeux se fermèrent d'un coup. Il était en sécurité, car nous avions établi notre camp au coin d'une haute falaise. Je le laissai donc pour marcher jusqu'à la grève. Je pensais que nous nous trouvions sur une île, sans pouvoir l'assurer. Aucune fumée ne montait au-dessus des arbres et, en tendant l'oreille, je n'entendis rien d'autre que les oiseaux de nuit, le bruissement des broussailles et le chuintement des vagues. L'intérieur des terres avait beau être rempli d'une profusion de fleurs et de forêts épaisses, je n'allais pas l'explorer. Je revoyais cette masse minérale qu'avait jadis été Scylla. Elle était partie, partie pour de bon. Pour la première fois depuis des siècles, je n'étais plus enchaînée à ce flot de malheur et de chagrin. Il n'y aurait plus d'âme qui partirait aux enfers par ma faute. Je me tournai vers la mer. Il était étrange de ne rien avoir en main, de ne pas tenir le manche d'un javelot. Je sentais l'air circuler sur mes paumes, le sel se mélangeant à l'odeur verte du printemps. Je me représentais cette longue tige grise qui plongeait dans les ténèbres pour retrouver son maître. « Trigon, dis-je, ta queue rentre chez toi. Je l'ai gardée longtemps, mais j'en ai fait bon usage. » Les vagues venaient mourir doucement sur le sable. L'air nocturne sur ma peau me procurait une sensation de pureté. Je marchais dans l'air frais comme on se baigne dans un bassin. Nous avions tout perdu, à l'exception du sac d'outils que Télémaque portait à la taille et de ma sacoche de simple que je gardais attachée sur moi. Nous allions devoir fabriquer de nouvelles rames et nous constituer d'autres réserves de nourriture. Toutefois, ces pensées attendraient le lendemain. Je passai devant un poirier couvert de fleurs blanches. Un poisson sauta dans la rivière illuminée par la lune. À chaque pas, je me sentais plus légère. Une émotion enflait dans ma gorge. Il me fallut un moment pour l'identifier. J'avais été vieille et sévère pendant si longtemps, sculptée par les années et les regrets, tel un monolithe. Mais c'était juste une forme qu'on m'avait imposée. Je n'étais pas obligée de la garder. Télémaque dormait toujours. Il tenait ses mains sous son menton à la manière d'un enfant. Elles avaient été meurtries jusqu'au sang par les rames, et je leur avais appliqué un baume alors qu'elles reposaient, toutes chaudes, sur mes genoux. Si ses doigts étaient plus calleux que je ne l'imaginais, ses paumes restaient lisses. Ah et ah, je m'étais si souvent demandé l'effet que cela ferait de le toucher. Il ouvrit les yeux comme si j'avais prononcé ses paroles à haute voix. Son regard était plus clair que jamais. « Scylla n'est pas né monstre, c'est moi qui l'ai changé, » déclarai-je. Son visage était obscurci par l'ombre des flammes. « Comment est-ce arrivé ?» Une partie de moi poussa un cri d'alarme. « Si tu parles, il deviendra gris et te détestera. » Malgré tout, je l'ignorais. S'il devait devenir gris, qu'il en soit ainsi. Je ne continuerai pas à tisser mes étoffes le jour et à défaire mon ouvrage la nuit sans jamais rien accomplir. Je lui racontai toute l'histoire, détaillant chaque jalousie et chaque folie et les vies perdues à cause de moi. « Son nom, remarqua-t-il, Scylla, il signifie « celle qui a été transformée ». Peut-être que devenir un monstre était sa destinée depuis le début et que tu n'en as été que l'instrument. Te sers-tu de la même excuse pour les servantes que tu as pendues ? On aurait dit que je l'avais frappée. Je ne me trouve pas d'excuse pour ça. J'en supporterai la honte toute ma vie. Même si je ne peux pas le défaire, je passerai le reste de mon existence à souhaiter que cela soit possible. C'est ainsi que tu sais que tu es différent de ton père. Oui, répondit-il d'un ton brusque. C'est pareil pour moi. N'essaie pas de m'enlever mes regrets. Il resta silencieux un long moment. Tu es sage, déclara-t-il finalement. Si c'est le cas, c'est uniquement parce que j'ai été suffisamment stupide pendant une centaine de vies. Et pourtant, au moins, tu t'es battu pour ce que tu aimais. Ce n'est pas toujours une bénédiction. Laisse-moi te dire que mon passé ressemble aux événements d'aujourd'hui, plein de monstres et d'horreurs que personne ne veut entendre. Il soutint mon regard. Bizarrement, quelque chose en lui me rappela le Trigon, sa patience surnaturelle et calme. J'aimerais bien les entendre, moi. Je l'avais tenu à distance pour tant de raisons, sa mère et mon fils, son père et Athéna, parce que j'étais une déesse et lui un homme. Mais je me rendis compte que l'origine de ces raisons était une sorte de peur, et je n'ai jamais été lâche. Je tendis la main dans l'air frémissant entre nous et le trouvai.